Yutet Pasuk Lamed. Mais avant de regarder dans le Yutet Lamed, regardez dans Yutet. C'est dans le dialogue entre Lot et les envoyés, les anges, les prophètes, peu importe, qui veulent détruire Sodom et qui lui disent « Va, enfuis-toi dans la montagne ». Alors au verset Yutet, Inena matza avdecha chen be'aynecha, voici que ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. Vatagdel chazdecha sherasita imadi, tu as grandement fait de la bonté avec moi. Le'achayot et nafshi, de me laisser en vie. Ve'anochi lo uchal lehimalet ha'ara, mais je ne peux pas m'enfuir dans la montagne. De peur que je ne sois atteint par le mal et que je meure. Alors comment comprendre cette histoire qu'il ne peut pas s'enfuir dans la montagne? On peut dire qu'il ne peut pas aller si vite. Mais regardez dans Rashi, dans le verset Yutet, Pentit Bakani Hara, de peur que je ne sois atteint par le mal, que dit Rashi, que chez Haïti et Tselanche Sedom, lorsque je résidais parmi les habitants de Sodom, Aya Kadosh Baruch Hu roe ma'asai ou ma'asai bene ha'ir. Dieu considérait mes actions et les actions des habitants de la ville. Va'iti nir'e tzadik, et par rapport à eux, j'avais l'air d'un juste. Urdai le'inatzel, et qui méritait donc d'être sauvé. Urshavo etzel tzadik ani kerasha. Mais si je me rends chez le tzadik, je serai comme un méchant. Qui est le tzadik en question? Abraham. C'est-à-dire, si je me rends chez Abraham, alors je serai en accusation, je serai en état d'infériorité par rapport à Abraham, donc je ne peux pas m'enfuir dans la montagne. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se rend dans la ville de Tsoar. C'est-à-dire, l'ange épargne la ville de Tsoar à cause de la prière de Lot. Chose intéressante, Abraham n'a pas réussi à sauver même pas une ville. Il a demandé qu'il y ait 10 tzadikim, il n'y en avait pas. Là, il suffit de un tzadik relatif pour sauver toute une ville. Hein? C'est quoi? Comme Noah. Comme Noah, oui, d'accord. Mais comment se fait-il qu'il arrive à faire ce qu'Abraham n'arrive pas à faire? C'est très simple, c'est parce qu'il est sur le terrain. Il y a toujours un avantage à celui qui est sur le terrain par rapport à celui qui voit les choses d'en haut. Et donc, étant donné qu'il est sur le terrain, il peut, il est concerné directement, tandis qu'Abraham, lui, n'est pas concerné directement. Donc, Lot peut sauver une ville. Maintenant, une fois qu'on a compris tout ça, regardez dans le verset Lamed, chapitre Yutet, verset Lamed. Quoi? Oui.
Il y a une valeur en soi à être sadique qui n'est pas dépendante des autres. Enfin, là, on voit qu'elle est dépendante des autres aussi, il y a une valeur en soi.
Il peut y avoir un sadique absolu. Le sadique absolu, c'est Akadosh Baruch Hu. Sadiko, c'est la Olam. Toujours par rapport, bien sûr. Quand tu dis que quelque chose est grand, il est grand par rapport à plus grand ou à plus petit. D'accord? Disons que ça dépend également des valeurs qui te concernent. C'est-à-dire, on est toujours jugé par rapport aux valeurs qu'on accepte. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas qu'il doit faire le Shabbat n'est pas jugé par rapport à ça. Il est jugé par rapport aux valeurs qu'il accepte. De même, on est parfois tzaddik par rapport à une norme sociale. Par exemple, on a le droit d'assassiner des... Merci. On a le droit d'assassiner des animaux pour faire honneur au repas de Shabbat. N'est-ce pas? Et donc c'est Kvot Shabbat, Onek Shabbat, on a assassiné un animal. C'est très bien. Parce que on est dans un monde dans lequel la consommation de viande est autorisée. Mais dans un monde végétarien, eh bien, celui qui mangerait un steak serait condamné à la prison au moins. D'accord? C'est-à-dire que les valeurs sont en fonction de ce qui est admis également. Ouais. D'ailleurs, il y a également, on a le droit de voler le lait qui est destiné à un veau.
De la vache.
Oui, on prend le lait de la vache. Au lieu de le donner au mignon petit veau, on prend pour ça, pour notre café au lait, pour nos fromages, etc.
Mais c'est sur la vache.
Peut-être. En tout cas, on élève la vache de telle sorte qu'elle produise beaucoup de lait pour qu'on puisse s'en servir. En fait, c'est du vol. C'est du vol autorisé. De même que la viande, c'est un assassinat autorisé, le lait est un vol autorisé. Ça vous explique pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Parce qu'il faut quand même si les deux sont autorisés, il y a une différence morale. D'accord ? Il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes ou l'assassinat avec le vol. D'accord ? Bon. En tout cas, donc c'était pour répondre à ta question à propos du tzaddik. Maintenant, je reviens ici au verset Lamed. Quoi ?
Désolé.
Oui, oui, non, t'as pas l'air.
La semaine dernière.
Donc oui, qu'est-ce que j'ai fait encore ?
Il dit que l'autre, il était parti, et on dit qu'il était pressé, tout ça, et avant de partir, il prend l'argent.
Oui.
Tu avais dit parce que
Il y a des valeurs à recueillir dans ce dôme. Oui, alors ?
Et c'était la seule valeur à recueillir dans ce dôme ?
Non, ça représentait la valeur.
Ok.
Mais non, je peux. Quoi ? Le messianisme. Le messianisme vient de ce dôme. Parce que à ce dôme, il y avait une société parfaite dans laquelle il ne manquait de rien, ce qui est exactement l'idéal messianique. D'accord ? Verset Lamed. On peut y aller ou... Bon, ça va. Vayal Lot Mitzohar. Lot monta de Tzohar. Vayeshev Bahar. Il s'installa dans la montagne. Tiens donc. Quelques versets avant, il dit « Je ne peux pas me rendre dans la montagne ». Et là, il quitte Tzohar et il se rend dans la montagne. Ushte benotav imo, ses deux filles étaient avec lui, qui arrêt la chevet betzohar, car il avait peur de résider à Tzohar. Auparavant, il a dit, j'ai peur de la montagne, donc je veux être à Tzohar. Maintenant, il dit, j'ai peur de Tzohar, donc je vais dans la montagne. Qu'est-ce qui a changé? D'accord? Alors, Rashi nous dit, qui a la chevet betzohar, qui a les fiches a été krova l'isdom, parce qu'elle était proche de Sdom. Bon, d'accord, mais quand même, ça veut dire qu'en fait, Lot craint l'influence de Sdom. C'est-à-dire, Tzohar est une ville proto-sdomite. C'est-à-dire, c'est pas vraiment Sdom, mais c'est pas loin. Donc, si à Sdom, on se détériore, à Tzohar aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la montagne? Il ne peut pas aller dans la montagne, parce qu'il y a Avram. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vayeshev Bameara. Il s'installa dans la caverne. Où est la caverne? Dans la montagne. Où ça, dans la montagne?
En bas,
en bas ou en haut?
En haut, il y a Avram.
Oui, et en bas, il y a Sdom. C'est quelque chose au milieu. D'accord? C'est-à-dire, sur le versant de la montagne, il y a une caverne dans laquelle va rentrer Lot avec ses deux filles. D'accord? Quoi? Ça veut dire qu'il est à mi-chemin entre Sdom et Avram. C'est un personnage qui est fait des deux à la fois. Il est un peu Sdom, il est un peu Avram. Ce qui va créer une situation explosive, étant donné que Avram et Sdom, ce sont des antithèses. Avraham est celui qui donne la générosité, tandis que Sdom, c'est l'égoïsme. On refuse la tzedaka. Donc, qu'est-ce qui va se produire là-bas? Rentrer dans la grotte, il y a ici une image. Ça ressemble un peu au fœtus dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire, en psychanalyse, on explique que la mère représente une caverne, ou la caverne représente la mère. C'est de là qu'on vient. Probablement de là également l'idée de Platon avec le mythe de la caverne. Il va rentrer dans la caverne. Vatomer Abechira et la Tseira, et la plus âgée dit à la plus jeune. Avinu Zaken, notre père est vieux. Veish en Baaretz, la voix à l'énou qui est derrière Kolaaretz. il n'y a pas d'homme sur la terre pour venir à nous comme il est d'usage dans toute la terre. Ah bon? Pourquoi elle se pensait qu'il n'y avait pas d'homme sur terre? Pourquoi elle pensait que le monde entier était détruit? Ben non, Sodom est détruite, d'accord. Mais il va dans la montagne. Dans la montagne, on voit bien que c'est pas détruit. Alors pourquoi est-ce qu'elle pense qu'il n'y a personne sur la terre? Bizarre. Lecha nashke et avinu yain, alors abreuvons notre père de vin. Venishkeva imo, couchons avec lui. Unchayem avinu zara, et comme ça nous pourrons faire revivre de notre père une semence. Vatashkena et avien yain. Et elles ont abreuvé leur père de vin. Balaylahu, dans cette nuit-là. Maintenant j'aimerais comprendre, où est-ce qu'il y avait du vin dans la grotte? Rashi répond à la question.
C'est partie des richesses que l'autre avait prises.
Regardons Rashi. Je propose de voir Rashi. Dans le verset Lamed Gimel. Batashkena, Yain nizdamen lahem bame'ara. Du vin leur est arrivé dans la grotte. Le Midrash dit du Gan Eden. Leotzi men shteumot. Pour donner naissance à deux nations. Extraordinaire. Ça veut donc dire que les filles de Lot font une action méritoire. Tiens donc. Vatavo abechira, vatishka vetavia, velo yada bechirva uvkuma. Et donc, la plus vieille, la plus âgée, couchait avec son père, il n'était pas conscient ni quand elle s'est couchée, ni quand elle s'est levée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Hein? C'est bizarre un peu parce que c'est le même corps. Quand de nos jours on voit, et que même si on est bourré.
Il était très bourré. On dit en hébreu, chikor kelot. Il était ivre comme Lot. Voilà. Vayehi mimachorat, et ce fut le lendemain. Vatomer abichira la tzira, en shachavti yemeshet avin, ashkenu yain gambalaïla. Gambalaïla, ouvri shikhvimon, trahim avinuzara. Elle dit voilà, ça a marché hier soir, on va refaire la même chose. Et effectivement, elles abreuvent leur père et il se passe la même chose. Regardez dans Rashi. Non, c'est pas écrit dans Rashi. Il y a dans le Midrash. Il est dit, par le mérite qu'a eu la plus âgée de coucher avec son père un jour avant, sa descendance est entrée dans le peuple d'Israël 4 générations avant celle de la deuxième. En effet, de la première est né Moab, de la deuxième Amon. Du peuple de Moab est née finalement une femme du nom de Ruth, qui est l'arrière-grand-mère du roi David. Et de la deuxième est née la nation de Ammon, d'où est sortie plus tard une femme du nom de Naama, Ammonite, Naama l'Ammonite, qui a été mariée à Shlomo, le fils de David, et qui a donné naissance à la lignée messianique. Oui, mais Ruth, elle a précédé de 4 générations. C'est-à-dire, et pourquoi elle a eu ce mérite, comment elle a pu précéder de 4 générations? C'est par le mérite de la plus âgée qui a précédé d'une nuit. On a l'impression d'être dans un roman surréaliste, oui.
Juste quand on lit
Rashi, c'est
quelque chose qui devait
être... Oui, probablement.
Mais ça, j'arrive pas à comprendre, parce que c'est
immoral. Oui, il y a un problème, effectivement. Bon, alors essayons de comprendre. La clé de tout le problème, c'est dans le verset Lamed Aleph, que nous avons déjà vu, mais nous revenons au verset Lamed Aleph. Vatomer abichira et atzira avinuzaken. La plus âgée dit à la plus vieille, notre père est vieux. Ve'ishen baaretz lavo, et il n'y a pas d'homme sur la terre, lavo alenu, pour venir auprès de nous, c'est-à-dire pour avoir un rapport conjugal. Maintenant, le verbe en hébreu biblique, qui veut dire un rapport conjugal, c'est lavo-el. Lavo-el, venir auprès d'eux. Par exemple, avoa elea, kikar ishisha, uva elea. Donc, le verbe en hébreu, c'est lavo, et avec une conjonction, el. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Lavo, al. Cette expression est extrêmement rare. Elle apparaît deux fois dans la Torah seulement. La première fois, c'est où? C'est ici. La deuxième, c'est dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, il est dit à propos du Yiboum, lorsqu'un homme meurt et qu'il n'a pas d'enfant, alors sa femme ne se marie pas avec qui elle veut, son Yavam, c'est-à-dire son beau-frère, Yevama Yavo Aleha. Et là-bas, le terme employé, donc pour parler du rapport conjugal, c'est Lavo Al. C'est le seul cas. Donc, pourquoi est-ce que, quand il est question du Yiboum, on dit Lavo Al? Parce que Al, ça veut dire en plus. En plus du premier mari, maintenant il y a le deuxième mari. Yavo Al. Et donc, ce qu'elles disent ici, les filles de Lot, elles disent, il n'y a personne sur terre qui reste parmi les sodomites. Donc, on ne peut pas faire le yiboum de la ville de Sodome, c'est-à-dire que la ville de Sodome est perdue dans l'histoire. Il n'y a plus rien à récupérer. Il ne reste qu'un seul sodomite dans le monde. C'est papa. Et donc, elles font une mitzvah de yiboum. C'est ça leur intention. D'accord? Pour qu'il y reste quelque chose de Sodome dans le monde. Donc, elles sont des bonnes élèves d'Abraham. D'un autre côté, c'est pas très, très esthétique. D'accord? Un père avec ses filles, etc.
Et en plus, c'est même pas le Yiboum concret,
c'est ça? Si, c'est ça le Yiboum. Le Yiboum est une très ancienne institution. La preuve, c'est que Yehuda dit à son deuxième fils, quand son premier fils est mort, il dit, il faut que tu fasses le yiboum de sa veuve, d'accord? Qui s'appelle Tamar, d'accord? Et quand le deuxième meurt, elle doit être donnée à Sheila. Et Sheila et Yehuda ne veut pas, parce qu'il a peur que Tamar ne soit mortifère, et donc il repousse son mariage. Tamar, elle se dit, mais ça va pas se passer comme ça. Elle va séduire Yehuda pour faire un yiboum. Mais Yehuda, c'est pas son beau-frère. Yehuda, c'est son beau-père. Comme quoi, le yiboum était exercé à l'époque avec tous les membres de la famille. C'est-à-dire, une femme est mariée avec la famille, et donc si ça ne continue pas par une branche, ça continuera par une autre. Donc elle s'est dit, il faut donc que je fasse le yiboum avec mon beau-père. Ce qui a réussi, elle s'est donné Peretz et Zerach en mémoire de Er et Onan. Oui.
Le yiboum, c'est pour pas perpétuer la descendance, pour éviter les problèmes d'héritage?
Non, c'est pour continuer la descendance, pour que son nom ne soit pas effacé. Alors maintenant, la Torah a repris le yiboum, l'usage qui était déjà en usage, mais elle a introduit deux changements, deux réformes. La première, c'est que ça ne peut se faire qu'avec les frères et personne d'autre. Donc, l'histoire de Yehuda n'est pas valable. Et que ça peut être également libéré avec la cérémonie du déchaussement, la chalitza. Oui.
Si, donc c'est pour faire continuer une descendance qui a disparu.
Oui.
Les sœurs sont
censées
aider à continuer la descendance du temps. Pourquoi la deuxième, elle a besoin de faire? C'est la jeune,
Ah ben c'est du hidour mitzvah. D'accord? C'est des méadrim.
Voilà.
Et donc, on sait rien. En tout cas, elles étaient plus jeunes que leur père. Par définition, bah oui. Bah oui. On est toujours plus jeune que son père.
Mathématiquement parlant,
elles sont pas nées au moment où leur père est né. Ben oui. Ah, bon. Oui.
Il y a quelque chose de particulier pour que ce soit les machorat, que ce soit le lendemain et pas.
Probablement, oui, je sais pas. Je sais pas ce que disait Midrashim. Oui.
Quel est l'intérêt de récupérer.
Alors justement, elles se disent qu'il n'y a rien dans le monde qui est irrécupérable. Il y a toujours une étincelle de sainteté qui se cache quelque part, et donc ce sont des idéalistes. Maintenant, elles vont donner des noms à leurs enfants. D'accord? Le nom de la première, du fils de la première, va-t-elle, au verset de la Mezzaïne, va-t-elle aider Abichira Ben, va-t-ikra chez Moav.
Ah, c'est provocateur, ça.
Oui, c'est provocateur. Elle dit, il vient du sein de mon père, ou Avi Moav Adayom. Va-t-ikra Gami Yalda Ben, et la plus jeune a également eu un fils, va-t-ikra chez Moav Ben Ami, fils de moi, de mon proche, c'est-à-dire de mon père. Maintenant, dans le Moav, c'est provocateur. D'accord? C'est provocateur, c'est de la chutzpa, ce qui est à l'origine de la, ce qu'on appelle dans la Gemara, chutzpa de ikveta dimshira. La chutzpa de l'époque messianique. D'accord? Maintenant, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'elle a proclamé ça? C'est-à-dire, ça, c'est, même si on a de la chutzpa, on va pas jusqu'à, brandir une pancarte. Vous savez, mon fils, ça vient de papa. Non, on fait pas ça. D'accord? Alors, il y avait à New York un grand possèque, le Rav Moshe Feinstein. Vous avez probablement entendu parler. Auteur du Shelot Utshuvot, Igrot Moshe, dans lequel il y a une quantité énorme de questions qui sont traitées relatives à la technologie moderne, par exemple, et trucs de ce genre. Et, dans l'introduction d'un des volumes, il raconte une histoire vraie. Cette histoire vraie, c'était l'histoire d'un rabbin dont j'ai oublié le nom, en Lituanie, qui un jour, à la synagogue, a fait tout un discours contre les filles de Lot. Vous connaissez cette histoire? Ah, si vous la connaissez, je ne vais pas la raconter. Ah, bon. Si, lui, il la connaît. Bon. En tout cas, donc, le rabbin a fait tout un discours contre les filles de Lot. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Elles couchent avec leur père, elles n'ont pas honte, et en plus, ça, elles le publient. Alors, pendant la nuit, lui sont apparues deux femmes voilées qui lui ont dit, nous sommes les filles de Lot. Et sache que nous avons révélé que ça venait de notre père pour que on ne tombe pas dans de la théologie chrétienne. Parce que pour les chrétiens, il peut avoir un enfant qui naît sans père. Et donc, c'est pour éviter que ce soit interprété comme ça, pour qu'on n'aille pas dire que ça vient de l'opération du Saint-Esprit. Donc, nous avons révélé que ça venait de notre père. Voilà. Et Rav Moshe Feinstein ramène cette histoire dans l'introduction à un de ses volumes du Igrot Moshe. Oui?
On parle de la vie, c'est une bonne action de ce qu'elles ont fait
les parents. Ben, justement, c'est une bonne question si elles ont fait le Yiboum.
Ce que je veux dire, c'est les filles de Lot. A priori, elles ont grandi
dans un milieu pas extraordinaire.
Alors,
c'est quelque chose d'intermédiaire. Alors, regardons un peu ce que dit Rashi. Sur le verset Aleph, dans le chapitre Kaf, regardez dans le verset Aleph. Vaïssa Misham Avraham Arza Anegev. Avraham voyagea de là-bas. Il était dans la région. Il a voyagé de là-bas vers le sud. Pourquoi est-ce qu'il a voyagé? Alors Rashi nous donne ici deux interprétations. La première, Keshera Shecharvu Akrachim Ufasko Avrim Vashavim Nasalom Misham. Lorsqu'il a vu que les villes ont été détruites et qu'il n'y avait plus de passants, donc il ne pouvait plus inviter des gens, il a quitté le lieu pour aller dans un endroit où il y a des passants. Bon, ça correspond tout à fait à l'identité d'Abraham en tant que Baal Chesed et tout le reste. Davar Acher, deuxième interprétation, Litrachek Milot, pour s'éloigner de Lot. Sheyatza Alav Shemra, parce qu'il avait une mauvaise réputation. Shebaal Benotav, parce qu'il avait couché avec ses filles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham n'est pas capable, à ce moment de l'histoire, d'intégrer ce qui se passe là-bas. Il faudra attendre jusqu'au roi David. Une fois que ça arrivera au roi David, on pourra récupérer. Pour l'instant, c'est pas récupérable parce que l'identité d'Israël n'est pas encore formée. Et donc, introduire quelque chose qui est dépréciable, qui est dénigrable, comme le fait que Lot était allé avec ses filles, alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas intégrer à ce moment-là, parce que si on l'intègre, ça va détruire l'intégrité de l'identité d'Israël, donc il faut qu'il s'éloigne. D'accord ?
J'ai une autre question. Si à l'époque, pour Lot,
oui.
Pour Tamar, pour cette époque-là, c'était pas dépressif.
Oui, mais ça se fait pas. C'est-à-dire, même si ça se fait, non, avec le... D'abord, même chez Tamar, il était évident qu'a priori, ça devait être le frère. D'accord? C'est uniquement à cause de la force des événements qu'elle est allée chez son beau-père. De même, je pense que si elles disent qu'il faut l'enivrer, c'est-à-dire qu'il ne le ferait pas, lui ne serait pas d'accord. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème moral quand même. D'accord? Oui?
Pour revenir à cette histoire de Srout, pourquoi la ligne du Srout? Parce que c'est, on voit que c'est normal de faire passer l'aîné avant la deuxième.
C'est vrai que c'est normal de faire passer l'aîné avant la deuxième, mais c'est le mérite. En principe, il y a également une valeur au fait de donner la première place au deuxième. Comme on voit par exemple dans Yaakov et Esav, pour Yosef et ses frères. C'est-à-dire qu'il y a également une démarche qui dit que il faudrait laisser la place au deuxième, et on la prend quand même. D'accord? Et donc elle s'est empressée parce que c'était une mitzvah. D'accord? De son point de vue. Oui.
C'est grave. Est-ce que là, c'est-à-dire qu'on a le droit de se marier avant son frère ou pas?
Ah, est-ce qu'on a le droit de se marier avant son frère? Son frère plus âgé, tu veux dire?
Pas avant son grand frère.
Avant son grand frère. D'ailleurs, tout un débat autour de ça. Certains disent oui, bien sûr. Il y en a qui diront, il ne faut pas. Et d'autres disent, mais non, ça c'est l'opinion de Lavan. Qui dit à Yaakov, on ne marie pas chez nous. La plus jeune avant la plus âgée.
Ouais. Et vous dites quoi?
Moi je dis qu'on a le droit. On a le droit, oui. Sinon on va coincer tout le monde. Sinon on coince tout le monde.
Ah,
ben oui. Hein, si le grand frère. Bon. Donc, on voit qu'à partir de là, Abraham va continuer donc l'élaboration de l'identité d'Israël en s'éloignant de Sodome. Maintenant, remarquez, enfin, de Sodome et de Lot et tout ce que ça représente. Maintenant, remarquez une chose intéressante. Si vous regardez un peu en arrière dans le chapitre Yudbet. Dans le chapitre Yudbet, au verset, Guimel. Dans le verset Guimel, va avarcha me varchecha, je bénirai ceux qui te bénissent, umkalelcha or, je mépriserai ceux qui te méprisent, venivrechu becha kol mishpachot ha'adama, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Alors, vous vous rappelez qu'on avait vu la dernière fois, quand on avait vu ce verset, que venivrechu, c'est du marcotage, n'est-ce pas? Alors, regardez ce que dit Rashi sur venivrechu becha. Yesh agadot rabot. Il y a beaucoup de agadot pour expliquer ce verset. Et Rachid ne les amène pas. Mais il te dit, sache que ça existe. Bizarre. Si Rachid veut expliquer le pshat, il n'a qu'à dire le pshat, point à la ligne. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous dire? Il y a encore des agadot. C'est qu'il y a quelque chose d'autre que Rachid ne veut pas dire, mais il le dit quand même par allusion. C'est ce que dit Rabbi Eliezer dans la Gemara, dans le traité d'Yevamot. Quand Rabbi Eliezer dit, j'ai deux branches à insérer dans toi, venivrichu becha, c'est donc du verbe leavrir, le marcotage. Et Rabbi Eliezer dit, il s'agit de Ruth la Moabite et de Naama la Ammonite. C'est-à-dire que dès le départ, quand Abraham est élu, il est élu pour faire le rassemblement messianique des nations à travers les nations les plus éloignées, qui sont Ammon et Moab. Oui, c'est ça, c'est ça le principe du Likut Nitzotzot. Rashi pense que c'est dangereux de le dire au simple lecteur, donc il lui dit, mais sache que ça existe. Maintenant, il y a dans le livre de Devarim, il est dit qu'il est interdit de se marier avec les Moabites, n'est-ce pas? Et les Ammonites. Et que c'est Boaz, finalement, qui a trouvé le moyen de dire, oui, un Moabite, mais pas une Moabite, d'accord? Il a épousé Ruth, finalement. Et donc ça veut dire que de toutes les nations, les plus éloignées, c'est Ammon et Moab. D'accord? Et donc si on arrive à intégrer ce qui est le plus éloigné, donc tout ce qui est au milieu également est intégré. Maintenant, remarquons une chose. Pourquoi est-ce qu'il est interdit de se marier, d'épouser des Moabites et des Ammonites? D'après le pshat là-bas. Non, parce qu'ils ne sont pas venus auprès de vous avec du pain et de l'eau lorsque vous êtes sortis d'Égypte. C'est ce qu'il y a écrit dans le livre de Devarim, dans la paracha de Kitetsé. Alors c'est absolument incroyable un truc pareil. Il y a des nations qui nous ont fait la guerre. C'est quand même pire que de ne pas venir nous proposer du pain et de l'eau. Et on a le droit d'épouser les filles de ces nations-là. Elles doivent se convertir évidemment, mais il n'y a pas de problème. Et simplement parce qu'ils n'ont pas été serviables. C'est-à-dire, quand on leur a demandé de l'eau et du pain, ils nous ont donné. Simplement, ils ne sont pas venus, ils ne se sont pas précipités auprès de nous pour nous donner du pain et de l'eau. Alors, c'est bizarre. Ça veut dire, en fait, que Ammon et Moab, ce sont des nations qui sont intermédiaires entre Sodome et Abraham. Donc, c'est en fait, ça va à l'extrême. Si elles ne se comportent pas comme Abraham, donc ça veut dire qu'elles sont déjà comme Sodome. Et il y a un verset, je crois, dans, je sais plus si c'est dans Yeshayahu ou dans Yirmiyahu, Moab ki Sodome tihiyeh. Moab, il arrivera à Moab ce qui est arrivé à Sodome. En fait, parce que c'est la suite de Sodome. D'accord? Donc, soit ils sont généreux, et donc c'est ça l'épreuve particulièrement pour Ammon et Moab. Si Ammon et Moab sont généreux, ça veut dire qu'ils ont intégré l'identité d'Abraham. S'ils ne le sont pas, c'est qu'ils sont des sodomites.
Et oui. Vu qu'ils ne sont pas pressés.
Exactement. Oui.
Amalek, c'est pas encore plus éloigné.
Ben non, justement. C'est pire qu'Amalek.
Ouais. Amalek, il
n'y
a pas de.
Si. On les igouille. Amalek? Non. Seulement s'ils font pas.
Hein? On peut pas les rapprocher.
On ne peut pas rapprocher les Amalekites? Pourquoi? Il y a dans la Guémara que les descendants de Haman ont enseigné la Torah. D'accord? Libne Banav chez Haman, Libdou Torah Israël.
Même à l'Assemblée des Livres, ils ne se sont pas précipités pour amener du pain.
Non, ils sont venus pour nous faire de la guerre. D'accord? Oui, mais eux, ce n'est pas leur épreuve. L'épreuve d'Amalek, c'est s'ils font la paix ou pas avec Israël. D'accord? Tandis que pour ce qui est de Ammon et Moab, leur épreuve, c'est ce qu'ils sont prêts à nous proposer. Généreusement du pain et de l'eau. D'ailleurs, ça explique qu'en fait, quand Rachid dit, quand Abraham a vu qu'il n'y avait plus de passants, c'est la même chose que s'éloigner de Lot. Parce que Abraham, justement, lui veut faire du chesed. Il veut faire du chesed. D'ailleurs, il y a un grand principe à propos du davar acher. Quand Rachid dit une interprétation et qu'après il en donne une autre, il dit davar acher. Est-ce que c'est une autre interprétation? Non, c'est un autre aspect de la même interprétation. Ça, on peut le prouver, mais bon, ce serait une étude à faire. Bon. Vaïssa, Misham, je reviens ici au verset Aleph. Chapitre Kaf, au verset Aleph. Vaïssa, Misham, Avraham, Arza, Anegev. Avraham voyagea de là-bas vers le pays du sud. Vaïeshev, Ben Kadesh ou Ben Shur. Il s'installa entre Kadesh et Shur. C'est où ça, Shur? C'est à la frontière de l'Égypte. Et Kadesh, alors il y a plusieurs Kadesh, mais c'est dans la Arava, en direction de Eilat. C'est-à-dire qu'Abraham va faire paître ses troupeaux dans la région du sud du Negev, nord du Sinaï. D'accord? Vayagor bigrar. Et il résidait à Gerar, c'est-à-dire son quartier général était à Grar. Qu'est-ce qu'il y a à Grar? Où c'est Bichlal? Grar. Vous savez pas où c'est Grar? Grar, c'est entre Gaza et Rafiar. Hein? Rafiar, c'est à la frontière. Aujourd'hui, c'est coupé en deux, moitié en Israël, enfin, dans la bande de Gaza, l'autre moitié en Égypte. D'accord? Et donc, entre Rafiar et Azza, se trouve Gerar. C'est exactement l'endroit qu'on appelait dans son temps Gush Katif. D'accord? Et Abraham va s'installer à Gerar. Maintenant, remarquez la position géographique. Gerar n'est pas loin de la mer. D'accord? De Gerar, on voit la mer Méditerranée. À part ça, il y a une route qui passe par Gerar. C'est la route qui va de l'Égypte au pays du Nord. En Turquie, etc. En fait, c'est le lieu de la voie internationale. C'est une autoroute internationale qui relie les différents continents, qui relie les civilisations. Donc, à partir du moment où Abraham a vu que dans la région de Sodome, il n'y avait plus rien à faire, il va se rendre dans la région cosmopolite. Dans la région dans laquelle il y a la voie de passage, et c'est ça qu'il cherche. Il cherche des gens à inviter. D'accord? Bon. Vayomer Avraham el Sarah ishto achoti. Avraham dit de Sarah, sa femme, qu'elle était ma sœur. Vous connaissez, ça vous rappelle quelque chose?
Oui.
Ouais. Vaishlach Avimelech Melech Gerar, Vaikach et Sarah. Avimelech, roi de Gerar, envoya prendre Sarah.
C'est la deuxième fois qu'il fait ça quand même.
La deuxième fois. Si on va selon le pshat, c'est la deuxième fois.
C'est le même.
Hein?
C'est le même Avimelech.
Le même Avimelech que quoi?
Que précédemment.
Précédemment, il n'y avait pas d'Avimelech. Où tu as trouvé un Avimelech avant? C'est la première fois qu'on le voit, Avimelech. D'accord? Et donc, selon le pshat, ça s'est passé, c'est donc la deuxième fois. Mais moi, je pense que c'était la première fois. C'est-à-dire l'histoire de Sarah qui est prise par le pharaon, ça s'est passé après ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand Avraham est à Gerar, il se rend vers l'Égypte. Donc la première fois, elle est emparée par Avimelech, la deuxième fois par le pharaon. Mais c'est pas comme ça dans le pshat. C'est-à-dire dans le pshat, c'est pas vraiment écrit. Mais je pense que c'est vrai, j'ai des raisons de le penser. L'une des raisons, par exemple, c'est que Avraham arrive comme un simple particulier, alors qu'il était le roi de toute la région. Alors comment est-ce qu'on peut penser, tiens, Avraham maintenant se promène avec sa sœur, quelque chose qui tient pas la route, d'accord? Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, Avraham n'était pas encore très grand, d'accord? Bon, oui. À moins qu'il y ait des bonnes raisons, c'est-à-dire le fait qu'il ait caché l'identité de Sarah chez Avimelech est valable, et encore plus en Égypte. D'accord? Oui, mais on va devoir comprendre ce qui se passe là-bas. Vayavo Elohim et Avimelech b'halom alayla. Elohim vint auprès d'Avimelech dans un rêve de la nuit. Vayomerlo, il lui dit, Inchamet, tu vas mourir. Alaisha asher lakarta, à cause de la femme que tu as pris. Vehi beulat baal, alors qu'elle est mariée. Qu'est-ce qu'on lui veut, le pauvre? Il savait pas qu'elle était mariée. Il pensait qu'elle était la sœur d'Abraham. Qu'est-ce qu'on lui veut? On va voir. Vavimelech lokara velea. Or, Avimelech ne s'était pas approché d'elle. On va comprendre par la suite qu'il était malade. Vayomar, il dit, Adonai, Seigneur, Hagoy gam tzadik taharog, comment tu tuerais aussi un peuple juste? C'est-à-dire que tu aies tué les habitants de Sodome ou la génération du déluge. Je comprends. Ils étaient pécheurs. Mais moi, je ne suis pas pécheur. Hallo, hu amarli, achoti. Alors qu'il m'a dit, c'est ma sœur. Vigamhi amra, achiou. Et elle aussi a dit, c'est mon frère. Betom levavi, dans l'intégrité de mon cœur. Ou venikion kapai, dans la pureté de mes mains. Asiti zot, j'ai fait cela. L'argument est-il bon ou pas? Il est bon. Vayomer elav Elohim b'chalom. Et alors Dieu lui répondit dans le rêve. Gamanochi adati. Moi aussi je sais. Ki betom levavra asita zot, que tu as fait ça dans l'intégrité de ton cœur. Mais pas dans la pureté de tes mains. Déjà une différence. Vayasor gamanochi otra mechatoli. Et donc je t'ai moi aussi empêché de pécher envers moi. Alken lo netaticha lingua elea, c'est pour ça que je ne t'ai pas laissé l'approcher. Alors là, j'ai vraiment rien compris. Il dit, Dieu lui dit, voilà, tu vas mourir parce qu'elle est mariée. Il dit, mais je savais pas qu'elle était mariée. C'est vrai, tu as raison. Il n'y a pas la route. Comme si le bon Dieu, il se disait, ouais, au fait, mon argument n'est pas très bon, mais j'en ai d'autres. Hein? Oui.
C'est quoi le la carta?
Hein?
Il l'a prise.
Il l'a pris, oui.
Il n'a pas pu la toucher.
Il a pu la toucher, mais il l'a pris. Comment il l'a pris? Je ne sais pas comment il l'a pris. Avec un lasso, peut-être, je ne sais pas, moi.
Non. Eh, Dieu.
La carta Malécha.
Oui, d'accord, mais là, c'est bon, il l'a pris. Je ne sais pas. Mais là, on peut imaginer des tas de choses. Comment? Par exemple, oui, bon. Étant donné que la Torah ne donne pas des détails, donc on peut imaginer ce qu'on veut. Oui.
Est-ce que Avimelech va mourir de ça? Parce qu'il y a une promesse de Hachem. Enfin, il a donné d'abord un ordre, et après, beaucoup de revenus sur ses paroles. Est-ce que le fait d'avoir dit Inechamet, ça sera à cause de ça?
Donc, ce n'est pas à cause de ça qu'il va mourir. Ça veut dire qu'il doit mourir, mais pas à cause de ça. Ah, alors, à cause de quoi? Il y a, dans la Guémara, on demande pourquoi est-ce que les gens meurent. Il y a plusieurs endroits dans la Guémara, pourquoi est-ce que les gens meurent? Comment? Quoi?
Une
quoi, in?
Le Aïnara.
Le Aïnara, oui, ou la maladie, etc. Mais quelle est la raison morale? Alors, il y a, par exemple, une question que pose la Guémara, pourquoi est-ce que les ignorants meurent? Un ignorant ne devrait pas mourir. Parce que il connaît pas la loi. Et contrairement à l'opinion du droit romain qui est que nul n'est censé ignorer la loi, dans la halakha, c'est le contraire. Si j'ignore la loi, je suis pas responsable. Et donc, pourquoi est-ce que le Ama Aretz, l'ignorant, meurt? Réponse de la Guémara, il meurt parce que ils disent de la synagogue, ils appellent la synagogue Beth Am, la maison du peuple, et ils appellent le Aaron HaKodesh Aaron, l'armoire. Ils ne disent pas l'armoire sainte. C'est quoi cette histoire? Parce que, qu'est-ce que le Ama Aretz accepte comme norme? On a vu tout à l'heure, c'est l'histoire de la norme que j'accepte. Il accepte le respect de la Torah. Et donc, il meurt quand il transgresse son engagement envers le respect de la Torah. Maintenant, pourquoi est-ce que un tzaddik meurt? Mais comment? Lui, il connaît la Torah. Mais s'il est tzaddik, il ne transgresse pas la Torah, alors pourquoi est-ce qu'il devrait mourir? Parce qu'il n'est pas chassid. C'est-à-dire, il devrait faire plus et il ne fait pas plus. C'est-à-dire, la norme acceptée par le chassid, par le tzaddik, c'est la chassidoute. Et donc, quand il ne va pas plus loin, c'est là qu'il meurt. Autre question qui se pose donc, posée par la Guémara, pourquoi est-ce que les goyim meurent? Ils n'ont pas la Torah, donc pourquoi ils devraient mourir? Alors, parce qu'il y a les sept lois noachides. Oui, mais finalement, la Guémara dit mais que Dieu a levé l'interdiction, parce qu'il a vu qu'ils n'étaient pas capables, alors il a levé.
Et c'est vrai ça?
Non, je mens.
Non, mais je veux dire, c'est pas ça la question, c'est est-ce que, à l'heure actuelle, ils sont plus soumis aux sept lois noachides?
Bien sûr qu'ils sont soumis, mais attends, la Guémara pose la question, comment ils seraient pas soumis? On dit, non, ils sont soumis, mais pas en tant que mitzvah, mais en tant que derech eretz, en tant que morale. Et donc, en tant que politesse, dans le sens large du mot, d'accord, le comportement en société. Et donc, ce que dit la Guémara, c'est qu'il meurt à cause de fautes de politesse. Et alors, quelle est la faute de politesse de Avimeler? C'est pourquoi est-ce qu'Abraham a jugé qu'il était nécessaire de cacher l'identité de Sarah? Parce qu'il a vu qu'est-ce qui se faisait quand il arrive à Guérar. C'est que quand arrive un étranger, la première chose qu'on devrait lui demander, c'est s'il veut manger et boire. Et non pas si celle-là, c'est ta sœur ou ta femme. D'accord? Or, quand il a vu que c'était ça la question qu'on lui posait, c'est pour ça qu'il a caché. Donc, c'est un manque de politesse. C'est la raison de la mort. Oui?
Pourquoi le chassid meurt alors?
Le chassid meurt pour des raisons supplémentaires. Il faudra trouver. D'accord? Il y a tout un texte de la Guémara, du Midrash. Pourquoi est-ce que les gens meurent? Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe sont morts? Ouais, ce sont des quatre questions que pose le Midrash. Alors, il y a tout un texte du Maharal de Prague. Dans les Drashot Maharal, il y a là-bas un esped qu'il a fait pour un tzaddik de Prague. Et là-bas, il pose la question. Pourquoi est-ce que les tzaddikim meurent? Enfin, les grands tzaddikim. D'accord?
Hein? Pour les
J'en sais rien. Je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas ça qu'il dit là-bas, le Maharal. D'accord? Il dit autre chose. Et donc...
Juste, c'est dans quel Gemara qu'il y a ce discours-là de pourquoi il meurt?
Ah, ça, je crois que c'est à propos des goyim. C'est dans Makot. Dans Makot d'Aftet. D'accord? Bon. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, bon. Alors maintenant, regardez ce que dit le verset Zayin, encore plus surprenant. Donc ça veut dire ce qu'il lui dit. Tu as fait ça dans l'intégrité de ton cœur, puisque tu ne savais pas qu'elle était mariée. Mais tu n'étais pas pur dans tes mains, puisque il y avait un manque de politesse. C'est pour ça que tu meurs. Oui?
Ils meurent parce qu'ils ont demandé
leur norme était de se comporter comme il faut avec l'étranger. Oui.
Ils sont pas proposés.
De... Oui, exactement. Ça ressemble. Oui, exactement. Quoi? Ils n'ont pas proposé.
Ils n'ont pas proposé ou alors parce qu'ils ont demandé pour.
C'est, je sais pas. C'est la même chose. La Guémara dit. Est-ce que quand arrive un étranger, on lui demande s'il veut manger ou boire, ou si c'est sa femme ou sa sœur? Donc on peut interpréter dans les deux sens. Bon, passons au verset Zayin, vous allez avoir encore une plus grande surprise. Ve'ata, et présentement, Hashev Eshet Aish, rend la femme de cet homme. Kinaviu, parce qu'il est prophète. Ça veut dire, comme il est prophète, il faut rendre sa femme. Et s'il n'était pas prophète? Ça veut dire, c'est comme si le bon Dieu disait, écoute, c'est un copain, je lui parle de temps en temps, il faudrait quand même que tu lui rendes son objet, parce que tu comprends, c'est un ami. D'accord? C'est absolument intolérable, un verset pareil. Intolérable. Alors la Guémara, elle dit, non, non, il faut savoir lire. Ve'ata Hashev Eshet Aish. Maintenant, rends la femme de cet homme. Pourquoi? Parce qu'elle est la femme de cet homme. Kinaviu, mais comme il est prophète, il pourra prier pour toi et tu vivras. Si elle n'était pas prophète, sa prière ne serait pas entendue. Parce qu'il n'y a que les prophètes qui peuvent faire la prière. Oui. Ah, alors, tout un problème de savoir, est-ce que c'est vraiment un dévoilement d'Hachem ou c'est simplement un rêve? Alors, le Rambam dit, il est impensable qu'Avimelech soit prophète. C'est ce qu'il dit dans le Moré Nevouchim. Et il dit, la preuve, c'est la manière dont c'est présenté. Vayavo Elohim et l'Avimelech Bechalom Alayla. Elohim est venu auprès d'Avimelech dans un rêve. C'est une formule qui est employée uniquement pour les rêves et pas pour les prophètes. Donc c'était une sorte de rêve prémonitoire, une intuition forte, etc. Oui. En tout cas, il lui dit, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a raison, c'est qu'il dit que Abraham est prophète, pas toi. Il dit, comme il est prophète, sa prière sera entendue. Pourquoi donc? Parce qu'il n'y a que les prophètes qui peuvent faire la prière. On avait vu ça dans l'étude sur la Tefila. D'accord?
Mais là, c'est bizarre parce qu'on a dit, enfin, tout porte à croire que là, il prophétise, quoi, d'une manière, c'est un peu...
Oui, alors pourquoi Dieu lui dit, celui-là, il est prophète? Et donc, il peut prier pour toi. Si Avimelech lui-même est prophète, le texte lui-même prouve qu'Avimelech ne l'est pas.
Et alors, ça veut dire quoi un rêve prémonitoire?
Il y a des choses comme ça. Souvent, il y a des gens, j'ai entendu beaucoup de témoignages de ce genre, des gens qui ont rêvé à l'avance des événements qui allaient se passer, etc. Ça arrive. D'accord.
S'il avait été prophète, il aurait pu prier pour
lui-même. Ben oui. Et donc, tu prieras, il priera pour toi et tu vivras. C'est la première fois qu'apparaît dans le Tanakh le mot prophète. Et c'est également la première fois qu'apparaît dans le Tanakh le verbe prier. Seuls les prophètes peuvent prier. Nous avons longuement discuté de ce principe quand nous avons dans les premiers cours sur la Tefila. Comme ils sont enregistrés, tu peux très bien les écouter. D'accord? Oui. D'ailleurs, on avait même prouvé que le Shulchan Aruch le dit aussi. Oui.
Il n'y a aucune notion de prière avant avec les enfants entre Adam et Shem et Korah.
Ben, montre-moi où. C'est-à-dire que, d'ailleurs, historiquement parlant, la première forme de culte, ça a toujours été le sacrifice, la prière est plus tardive. C'est pour ça que la Guémara nous dit « Tefilot avot tiknum ». Les prières ont été instituées par les avot. Parce que c'était un problème, mais qui dit qu'on peut faire la prière. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu occasionnellement un tel ou un tel qui a fait la prière. Mais ce n'est pas devenu une institution. Tiknum, c'est-à-dire qu'ils ont institué.
Juste
oui. Oui. Alors.
C'est pas dans la Torah qui a marqué. Enfin, c'est pas dans le chat quoi qui a marqué par rapport à la femme de Lot, parce qu'on en a pas parlé. La femme de Lot, comme quoi elle se transforme en sel, se retourne.
Et alors, quel est le problème?
Donc ça, c'est un midrash, quoi?
Non, c'est écrit dans la Torah.
Ah.
Cool. On n'a pas lu le verset. Est-ce que je lis tous les versets? Non. Bon, mais c'est écrit. Ouais. Bon. V'imencha meshiv, mais si tu ne la rends pas, da ki mot tamut, sache que tu mourras, ata v'chol asher lach, toi et tout ce qui t'appartient, parce que tous ont participé de la faute. Et donc finalement, il va rendre Sarah. Regardez dans le verset tête. Le verset tête est très important. Vaikra avimelech le Avraham, Avimelech appela Avraham. Vayomer lo, me asit alanu ou me hatatilach. Qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi ai-je péché envers toi? Ki veta alai val mamlachti, chata gedola, pour que tu amènes sur moi et mon royaume une grande culpabilité. Ma si ma chère loya asu asita imadi, tu as fait des choses avec moi qui ne se font pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait il lui dit, en Égypte, je comprends que tu caches l'identité de Sarah. Ils sont complètement dépravés, les Égyptiens. Donc, tu as raison d'avoir peur. Mais chez nous, nous sommes policés. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de cacher l'identité de Sarah? D'accord? Verset Yud. Donc, le verset tête, il est prononcé par qui? Par Avimelech. Verset Yud, Bayomer Avimelech. Il manque quelque chose. C'est-à-dire qu'Abraham n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu? Parce que, pour lui, c'est évident. Donc, il va pas dire des évidences à Avimelech. Mais Avimelech, lui, ne comprend pas. Bah, Omer Avimelech et Abraham, Maraïta qui a cité Davarze, qu'est-ce que tu as vu pour faire cette chose-là? Et il lui répond, bah, Omer Abraham dit, qui a marti, parce que je me suis dit, Rakenirat Elohim Amakomazé, il manque seulement la crainte de Dieu dans ce lieu, Varagun et Aldvarishti, on me tuera à cause de ma femme. C'est quoi? Il n'y a que la crainte de Dieu qui manque. Ça veut dire qu'Abraham reconnaît que la nation d'Avimelech sont des gens civilisés, mais il leur manque quelque chose. C'est quoi qu'il leur manque? La source de la morale. C'est-à-dire, la crainte de Dieu, ça veut dire, ils sont moraux, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Or, quand on rencontre une femme de la beauté de Sarah, s'il n'y a pas la référence au divin dans la morale, alors tout est possible. Même de tuer Abraham. Oui.
C'est là pourquoi la morale ne peut pas exister sans crainte de Dieu.
Elle ne peut pas tenir le coup. Elle existe sans la crainte de Dieu. Mais elle ne peut pas tenir à longue échéance sans la crainte de Dieu. Alors ça, si vous voulez, Abraham est ici un anti-kantien. Pour Kant, la morale s'impose comme ce qu'on appelle un impératif catégorique. L'impératif catégorique, selon Kant, ça veut dire que il faut être moral parce qu'il faut être moral parce qu'il faut être moral. C'est-à-dire, c'est la raison qui fait que je ne peux pas être immoral si je suis logique. D'accord? Et Abraham lui dit, oui d'accord, mais ça peut marcher provisoirement. À la longue échéance, ça ne marchera pas. Comment est-ce qu'Abraham sait ça? Il a lu dans le Rav Kook la réaction à Kant qui dit, Hamoussar lo ya'amod lelo mikoro. La morale ne peut pas tenir sans sa source. Maintenant, il y avait un des commentateurs du Chumash, le Malbim. Vous avez entendu parler du Malbim? Le Malbim, il vivait en Roumanie, quand? Au 19e siècle. Et, je mens, au 19e siècle, et il était passé d'ailleurs par la ville de Königsberg, la ville où habitait Emmanuel Kant. Et dans son commentaire du verset que nous venons de lire, il dit, il y a des philosophes qui disent que la morale dépend simplement de l'intelligence de l'homme. La raison. C'est-à-dire, on voit très bien de quoi il parle. Et il dit, et c'est ça que pensait Avimelech, et c'est ça que Abraham lui répond. D'accord? C'est, le Malbim a plusieurs fois des citations de, sans dire le nom, des citations de Kant dans son commentaire du Tanakh. Oui.
Est-ce que
Minar
il était quand même idolâtre ou est-ce que c'était un athée en fait finalement?
Est-ce que on n'en sait rien?
Que
la Torah ne dit pas
si. De crainte de Dieu, même si c'est l'idolâtrie, ils imaginent que c'est un dieu.
Alors ce qu'il y a, c'est que on voit ici que Avimelech apparaît comme étant un monothéiste et Abraham comme un polythéiste dans la suite. Oui. Regardez comment c'est écrit au verset. Yud Gimel, Vayehi kaasher ito'u oti Elohim mibet avi. Ce fut lorsque les dieux m'ont éloigné de la maison de mon père. C'est Abraham qui parle. Donc il emploie un langage polythéiste, alors que Avimelech semble parler au nom de Dieu. D'accord? Ce qui prouve que du point de vue de la Torah, ce qui est central dans le personnage d'Abraham n'est pas son monothéisme, mais qu'il est l'ancêtre du peuple hébreu. Ouais? Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas monothéiste. Il était, nous savons par tradition orale qu'il était monothéiste. Mais le langage qu'il emploie peut-être peut prêter à confusion. Et donc finalement Abraham quitte il quitte Avimelech avec sa femme, qui elle reçoit d'ailleurs une compensation, 1000 pièces d'or, d'argent, etc. D'accord. Donc on voit que toute la maison d'Avimelech était malade dans le verset Yudzaïn et dans le verset Yutret, etc. Qu'ils étaient empêchés de procréer. À partir du moment où Sarah est libérée, alors ils peuvent également avoir des enfants. D'accord. C'est-à-dire il y aurait donc un rapport entre la fécondité d'Israël et la fécondité des nations. Il y a dans le Midrash que quand Sarah a eu est devenue enceinte, harbe akarot nifkedu ima, de nombreuses femmes stériles ont été libérées en même temps qu'elle. Intéressant de voir que en 1948, le peuple d'Israël a accédé à l'indépendance politique. Au même moment, l'Empire britannique s'effondre et des dizaines de pays deviennent indépendants. C'est-à-dire, c'est le moment où Harbe Arkarot Nifkedu Ima, si Israël se libère, alors le monde entier se libère. C'est pas le cas d'ailleurs pour l'Empire colonial français, ça a pris plus de temps, mais ça a commencé avec les Britanniques. L'Inde a précédé Israël d'ailleurs. Petite remarque intéressante, vous savez que la fin du mandat britannique sur Eretz Israël, c'était le jour du Shabbat, 6 Iyar. Et la déclaration d'indépendance s'est faite l'après-midi avant Shabbat. Pourquoi ? Pour tenir compte de la sainteté du Shabbat, parce que les religieux allaient nous faire des problèmes. Donc on a avancé la fondation de l'État d'Israël d'un jour à cause des religieux. En Inde, l'année d'avant, les hindous également ont proclamé leur indépendance, ils ont repoussé d'un jour leur déclaration, parce que les astrologues disaient que c'était un jour néfaste. C'est-à-dire que chez les idolâtres, on repousse l'indépendance, chez les monothéistes, on avance. C'est tout pour aujourd'hui. Shalom.